5 septembre. Ma tourterelle, ma chère Varinka. J'ai connu durant cette journée tant d'impressions diverses. Tout d'abord, j'ai eu mal à la tête, mon doux ange, sans discontinuer. Pour me rafraîchir un peu, je suis allé faire une promenade sur la Fontanka. La soirée était sombre et humide. À 6 heures, il fait déjà obscur. Oh, c'est la saison. Il ne pleuvait pas, mais il y avait un brouillard qui valait une bonne pluie. De grands nuages allongés glissaient sur le ciel. Il y avait foule sur le quai du canal. Mais tous ces gens montraient, comme exprès, d'affreux visages tristes et moroses qui vous plongeaient dans la mélancolie et la désolation. Des moujiques ivres, des femmes bavardes au nez camu, chaussées mais tête nue, des ouvriers, des cochers, ça et là un monsieur qui se hâtait pour quelque affaire, des gamins, un apprenti serrurier en manteau rayé, au visage chétif et maigre, noirci par la fumée, qui tenait un cadenas à la main. Un peu plus loin, un soldat retraité, une sorte de géant, attendait l'occasion de vendre à un passant un canif ou une bague de bronze. Voilà le public que j'y ai trouvé. Ce n'était sans doute pas l'heure où sortent les gens distingués. Après tout, la Fontanka n'est qu'un canal pour la circulation des bateaux. Quel désordre ! On se demande comment tant de choses peuvent y trouver place, c'est à n'y rien comprendre. Des paysannes se tiennent sur les ponts devant leurs étalages de biscuits trempés et de pommes à moitié pourries. Elles sont si sales, ces femmes, avec leurs vêtements mouillés d'eau. C'est plutôt triste, une promenade sur la Fontanka. Des pavés humides sous les pieds, de chaque côté de hautes et sombres bâtisses, noircies par la fumée. Devant moi, le brouillard, au-dessus de ma tête, le brouillard également. Pouf. Oh, c'était une soirée sombre et si mélancolique. Lorsque j'ai obliqué vers la rue Gorchovaya, il faisait déjà nuit, on commençait à allumer les marées berbères. Oh, il y avait si longtemps que je m'étais trouvé à la Gorchovaya, l'occasion ne s'en présentait pas. Quelle artère bruyante! Les magasins ont des devantures si riches, tout brille, tout reluit, les étoffes, les fleurs derrière les vitres, les petits chapeaux ornés de rubans coloriés. On pourrait croire que tout cela n'est que pour le décor, mais non, il existe des gens qui achètent ces objets pour les offrir à leurs femmes. C'est une rue luxueuse. On trouve de nombreuses boulangeries allemandes à la Gorchovaya, et ce sont probablement des gens très riches qui les exploitent. Que de voitures passent à chaque instant. Comment la chaussée peut-elle y résister ? Ce sont des équipages grandioses, les vitres brillent comme des miroirs, dedans tout n'est que velours et soie, et les laquais ont l'allure si aristocratique, avec des épaulettes et l'épée aux côtés. Je regardais dans chaque voiture, c'était plein de dames, oh, si bien vêtues, des princesses probablement et des comtesses. C'était sans doute l'heure où tout ce beau monde se hâtait pour se rendre à des bals ou à des assemblées. Ce serait si intéressant de voir de près une princesse ou une grande dame. Je suppose que cela doit être bien agréable, car je n'en ai jamais vu pour ma part, si ce n'est de loin, comme ce soir en jetant un coup d'œil dans les voitures. J'ai songé à vous en ce moment, oh, ma tourterelle, ma chère amie. Dès que je pense à vous, mon cœur se met à saigner. Mais pourquoi, Varinka, êtes-vous si malheureuse? Mon doux ange, en quoi seriez-vous pire que toutes ces dames? Vous êtes bonne, belle, instruite. Pourquoi faut-il qu'un si triste sort vous soit échu? D'où cela vient-il que les bonnes âmes vivent dans la détresse et l'abandon, tandis que d'autres n'ont même pas besoin de chercher le bonheur, ils se jettent dans leurs bras? C'est mal, ma petite mère, de raisonner ainsi. C'est mal, je le sais. C'est du libéralisme et de l'athéisme. En toute sincérité, cependant, et au nom de la sainte vérité, je me le demande. Pourquoi certaines femmes ont-elles été vouées au bonheur par un décret du destin, alors qu'elles gisaient encore dans le ventre de leur mère, tandis que d'autres voient le jour dans des orphelinats? Il arrive si souvent que le bonheur échoit à un quelconque qui vend le simple. « Tu n'es qui vend le simple, » semble lui dire le destin, « mais je veux que tu vives dans la joie, jouissant les revenus de tes grands-parents, buvant, mangeant et t'amusant. Allez, va, tends la main vers tous ces plaisirs. C'est pour cela que tu es fait, mon bon. Voilà comment tu es, mon brave. » C'est un péché, ma petite mère, un grand péché de faire des réflexions de ce genre. Mais c'est involontairement qu'on tombe par moments dans ce péché-là. Mais pourquoi ne possédez-vous pas également des équipages luxueux, ma douce hirondelle? Des généraux m'en diraient en passant vos regards indulgents. Pas comme nous autres, pauvres bougres. Vous seriez vêtus de soie et d'or, au lieu de porter comme maintenant de vieilles robes en gros drap. Vous ne seriez pas maigre, pas chétif, mais pareil à une statuette de porcelaine fraîche, rondelette, avec des joues roses. Je me contenterai en ce cas, pour mon bonheur, de vous apercevoir de la rue, derrière une fenêtre brillamment éclairée, et d'entrevoir votre ombre glissant sur un mur. La seule pensée que vous seriez heureux et gai, mon adorable oisillon, me remplirait de joie déjà. Qu'en est-il aujourd'hui? Comme s'il ne suffisait pas que de méchantes gens vous aient conduit au malheur, il faut encore qu'un misérable, un fêtard et honteux vienne vous insulter. Bon, du moment qu'il porte un habit élégant et qu'il vous regarde impudent, à travers un lorgnon cerclé d'or, tout lui est permis, pense-t-il. Vous devez écouter avec indulgence ces discours infâmes. N'est-ce pas ainsi, voyons, mes bons amis? Et pourquoi tout cela? Parce que vous êtes une orpheline, un être sans défense, et que vous n'avez pas d'amis assez puissants pour vous défendre. Qu'est-ce donc que cet homme? Que sont donc ces gens qui ne craignent pas d'offenser une pauvre enfant comme vous? Ce sont des misérables, en réalité, non pas des êtres humains. Ils ne sont que néants. Ils font seulement semblant d'exister pour qu'on tienne compte d'eux. Mais au fond, ils ne sont rien. J'en ai la conviction profonde. Voilà ce qu'ils sont, ces gens-là. Selon moi, ma chère amie, le joueur d'orgue de barbarie que j'ai vu aujourd'hui à la rue Golovaïa mérite plus de respect qu'eux. Il a beau se traîner dans les rues du matin au soir en se démenant pour obtenir quelques vieux copecs usés qui lui permettront de manger, mais il est son propre maître et il subvient à son existence sans rien demander à personne. Il ne veut pas d'aumône, il peine au contraire pour le plaisir d'autrui, comme une bonne machine bien remontée. Voilà, a-t-il l'air de dire, je me rends utile comme je peux. Je me force de vous distraire de mon mieux. C'est un miséreux, je l'admets, un miséreux. Mais sa fierté n'enlève rien à sa misère. Mais c'est un miséreux plein de noblesse. Il est fatigué, il se sent gelé, mais il travaille. Il continue de travailler, bien qu'à sa façon, c'est vrai. Il y en a beaucoup en ce monde de ces hommes honnêtes, ma petite mère, de ces hommes qui gagnent peu, certes, selon la grandeur et l'utilité de leur travail, mais ne doivent rien à personne, n'ont besoin de rechercher les bonnes grâces de personne, et ne mangent pas le pain d'autrui. Je suis comme eux, moi aussi, comme ce joueur d'orgue de barbarie. C'est-à-dire que je ne suis pas pareil à lui, non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, pas du tout comme lui. Mais en un certain sens, toutefois, je lui ressemble, du point de vue de la noblesse de l'effort. Comme lui, je peine selon mes forces, et je fais ce que je peux. Ce n'est pas beaucoup, je le sais, mais on ne peut donner que ce qu'on a. Si je parle ici de ce joueur d'orgue de barbarie, ma petite mère, c'est parce que j'ai ressenti doublement dans la journée le poids de la pauvreté. Je m'étais arrêté pour le regarder jouer. Il me venait des idées noires, alors pour les chasser, je me suis arrêté en face de lui. Il avait posé son instrument sous une fenêtre. Autour de lui s'était formé un petit groupe. Moi, décoché, une grande fille, puis une petite gamine toute sale, toute fripée. Il y avait là aussi un bambin, un garçonnet d'une dizaine d'années. Il aurait été assez joli sans son air maladif. Il était si chétif, en chemise seulement, à peine couvert d'un petit manteau, et les pieds presque nus. Bouche bée, il écoutait la musique, c'est de son âge. Il ne pouvait détacher ses yeux des marionnettes qui tournaient sur l'orgue, tandis que ses mains et ses pieds gelaient. Il tremblait de froid en mordillant le bout de sa manche. Je remarquai qu'il tenait un bout de papier dans son poing fermé. Un monsieur passa et jeta de loin une piécette au joueur d'orgue. La pièce de monnaie tomba dans le tiroir muni d'un irillage derrière lequel on voit danser un Français avec de belles dames. En entendant tinter la monnaie, le bambin tressaillit, regarda craintivement autour de lui et conclut apparemment que c'était moi qui avais lancé de l'argent. Il accourut vers moi. Ses mains tremblaient, sa voix tremblait. Il me tendit le petit bout de papier en me disant « Lisez ». Je déroulai le billet. C'est une histoire connue, que voulez-vous? Mes bienfaiteurs, y était-il écrit, je suis leur mère et je vais mourir. Mes trois enfants ont faim. Aidez-nous aujourd'hui et quand je serai morte. Je ne vous oublierai pas dans l'autre monde et je veillerai sur vous, mes bienfaiteurs. Parce que vous avez eu pitié de mes pauvres oisillons. Que voulez-vous? C'est un cas banal, la chose est claire, mais que pouvais-je faire? Je ne lui ai rien donné par conséquent. Cela me fendait le cœur de devoir refuser une aide. Le petit garçon, le pauvre, était bleui par le froid, et il avait faim peut-être. Qui sait, après tout, il ne mentait pas, sans doute, il disait la vérité, pour sûr. Oh, je m'y connais dans ces choses. Ce qui m'indigne, en revanche, c'est que ces mauvaises mères ne ménagent pas leurs enfants et les envoient dans la rue à demi-nus par un tel froid avec des billets. C'est probablement une femme stupide, sans caractère. Je suppose que personne ne s'occupe d'elle, alors elle reste là, chez elle, désespérée. Et peut-être est-elle réellement malade. Tout de même, elle devrait s'adresser quelque part, demander une aide. D'ailleurs, il pourrait s'agir d'une menteuse, tout bonnement, qui envoie exprès un enfant chétif et affamé dans la rue pour faire croire qu'elle est malade. Qu'apprendra-t-il ce gosse malheureux en portant des billets de ce genre? Quelle leçon tirera-t-il de la vie? Son cœur s'y endurcira, voilà tout. Il va, le pauvre, il court, il quémande. Les gens passent trop pressés pour l'écouter. Ils sont durs, insensibles, et les phrases qu'ils lui lancent en réponse le blessent cruellement. « Allez, va-t'en, décampe, garnement. Tu mens, on les connaît, ces histoires. » Voilà ce qu'il entend de chacun, et son cœur d'enfant s'emplit de sourdes rancunes. C'est en vain qu'il tremble dans le froid, le pauvre petit garçon terrorisé, pareil à un oisillon tombé d'un nid qui s'est défait. Il a les mains et les pieds gelés, son souffle est coupé par le froid. Un jour, il se mettra à tousser, pas encore un peu, et la maladie, comme un reptile mauvais, se glissera dans son corps, se logera dans sa poitrine, et bientôt la mort se penchera sur lui dans quelque coin obscur et sale, où il sera étendu sans soins, sans secours aucun. Voilà ce que sera sa vie. Voilà ce que peut être une existence en ce monde, ô Varlinka. Il est pénible d'entendre demander la charité et de devoir passer sans rien donner, se bornant à répondre « Dieu t'aidera ». Il y a des appels à l'aumône qui sont tolérables encore, car il y a toutes sortes de façons de supplier les passants, ma petite mère. Certaines de ces supplications, traînantes et chantantes, sentent l'habitude, l'intonation apprise, la mendicité régulière et professionnelle. En ce cas, c'est beaucoup moins pénible de ne rien donner. Il s'agit là de mendiants de longue date, habitués à cette vie, et l'on se dit alors qu'il surmontera la difficulté, qu'il sait, qu'il a appris comment il faut s'y prendre pour s'en tirer. Mais il est d'autres implorations qui n'ont rien d'habituel dans leur ton, qui sont rauques, presque rudes, effrayantes. Aujourd'hui, par exemple, lorsque j'ai pris le billet des mains de ce garçonnet, j'ai aperçu à deux pas près de la palissade un autre miséreux qui n'arrêtait pas les passants et qui s'est adressé à moi tout à coup. « Donnez-moi, monsieur, 5 copecks pour l'amour du Christ. » Oh, il l'a dit d'une voix tellement saccadée et dure que j'ai tressailli comme en proie à une sorte de frayeur. Mais je ne lui ai pas donné de copecks, je n'en avais pas moi-même. Il faut dire aussi que les gens riches n'aiment pas du tout que les pauvres se plaignent à haute voix de leur triste sort. Il paraît que cela les dérange et qu'ils se sentent importunés par là. Du reste, la misère est toujours importune. On dirait que les gémissements des malheureux empêchent les riches de dormir. Oh, je dois vous avouer, ma très chère amie, que je vous écris toutes ces choses, en partie pour me soulager le cœur, et en partie aussi pour vous donner une petite démonstration de mon style. Car vous avez certainement remarqué, ma petite mère, que mon style s'est grandement amélioré depuis quelque temps. J'ai appris à rédiger. En ce moment, toutefois, je me sens gagné par une telle mélancolie que je commence à me complaire avec sympathie à ma propre vie intérieure, que je me sens comme empli d'une bienveillance extrême pour moi-même. Bien que je sache, ma petite mère, que cette sympathie-là ne changera rien à ma situation, elle me permet néanmoins de me rendre justice jusqu'à un certain point. C'est un fait, ma chère amie, qu'il nous arrive parfois de nous rapetisser à nos propres yeux sans aucune raison, de nous ravaler à moins que rien, de nous abîmer dans la conscience de notre nullité. Si j'osais faire ici une comparaison, je dirais peut-être que cela me vient de ce que je suis moi aussi, un être malheureux et terrorisé, comme ce pauvre garçonnet qui m'avait demandé l'aumône tantôt. Je voudrais, si vous me le permettez, m'exprimer ici de façon figurée et allégorique, ma petite mère. Écoutez-moi. Il m'arrive, ma très chère, en me rendant à mon travail de bon matin, de contempler le spectacle de la ville qui se réveille et renaît à la vie, tandis que montent dans l'air les fumées des usines, et que les rues commencent à s'agiter comme une chaudière en ébullition dans un vacarme grandissant qui enveloppe tout. Il m'arrive alors d'être tellement saisi par le tableau qui se déroule devant moi, que j'en ressens comme une chiquenaude reçue à l'improviste sur un nez trop curieux. Je m'empresse de m'éloigner, me sentant si petit tout à coup, et de poursuivre mon chemin comme si cette vie tumultueuse n'était point faite pour moi. Mais réfléchissez bien. Demandez-vous ce qui se passe derrière les murs noirs ci-dessus de ces grandes maisons de pierre. Essayez de pénétrer leurs secrets. Et dites-moi ensuite si je n'avais pas tort de m'abaisser ainsi moi-même, sans raison, et de permettre à mon âme de se laisser gagner par une telle pusillanimité. Notez bien, Varinka, que je parle ici de façon allégorique et qu'il ne faut pas interpréter mes paroles à la lettre. Alors voyons donc ceux qui se cachent dans ces fières maisons. Là, dans quelque coin obscur et fumeux, dans un trou humide, que l'on qualifie faute de mieux de chambre ou de logis, un humble artisan vient de se réveiller. Pendant la nuit, il n'a fait que rêver, par exemple, d'une paire de chaussures qu'il aurait par mégarde entaillée la veille avec ses ciseaux, comme si de telles misères devaient absolument poursuivre l'homme jusque dans son sommeil. Il est vrai que ce n'est qu'un artisan, un pauvre cordonnier, et il est excusable par conséquent de ne penser toujours qu'à la même chose, qui est sa préoccupation quotidienne. Il a des enfants qui piaillent, et sa femme a faim, elle aussi. Oh, ce ne sont d'ailleurs pas les cordonniers seulement, ma petite mère, qui se réveillent dans cet état d'âme. Ce ne serait rien encore, et il n'y aurait guère lieu d'en parler, sans une circonstance autre qui s'y ajoute, ma petite mère. Dans cette même maison, un étage plus haut ou plus bas, il y a un appartement très luxueux, et l'homme riche qui y habite a rêvé aussi de chaussures cette nuit-là, supposons. C'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes chaussures. Les siennes sont d'une coupe différente, plus élégantes en quelque sorte. Toujours est-il que ce ne sont que des chaussures. Et c'est là le sens de mon allégorie, ma petite mère. Nous sommes tous plus ou moins cordonniers à certains égards. Mais tout cela ne serait rien encore, car le mal vient uniquement de ce qu'il ne se trouve personne à côté de ce riche personnage pour lui souffler discrètement à l'oreille. Allons, voyons. N'as-tu donc pas honte de ne penser qu'à ces choses, de ne te préoccuper que de toi-même et de vivre pour toi seul? Tu n'es pas un cordonnier. Tes enfants sont en bonne santé et ta femme n'a pas faim. Regarde autour de toi et peut-être découvriras-tu ainsi un objet plus digne de tes soucis et plus noble que les chaussures. Voilà ce que je voulais vous dire, ma petite mère, de façon allégorique. Il se peut que je fasse preuve en ce moment d'une trop grande indépendance d'esprit, ma chère amie. Mais c'est une pensée qui me vient parfois, qui m'assaille de temps à autre. C'est involontairement que m'échappent alors du cœur des paroles violentes. C'est pourquoi j'avais tort de me déprécier, de me ravaler moi-même, impressionné que j'étais par le vacarme et les grondements de la ville. Je vais conclure. Vous croirez peut-être, ma petite mère, que je me calomnie, que j'invente des histoires, que je m'abandonne à la mélancolie, ou que j'ai copié tout ça dans un livre. Eh bien, détrompez-vous, ma petite mère, non. Je ne m'abaisse pas à la calomnie. Je n'invente pas, je ne broie pas du noir, et je n'ai rien copié dans les livres. Voilà ce que c'est. Alors je suis rentré chez moi, plein de tristesse. Je me suis installé à ma table, j'ai chauffé la théière sur le samovar, et je me disposais à boire tranquillement un verre de thé, ou deux peut-être, quand tout à coup Gorshkov, ce locataire misérable, est entré dans ma chambre. J'avais déjà remarqué ce matin qu'il tournait timidement autour des autres locataires de l'appartement et il fit même mine, à un moment donné, de s'approcher de moi. Il faut que je vous dise en passant, ma petite mère, qu'ils sont bien plus à plaindre que moi dans leur misère. Pensez donc, une femme, des enfants. À la place de Gorshkov, je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait, moi. Voilà donc mon Gorshkov qui s'amène, une petite larme sale collant comme toujours à ses cils. Il salue, claque des talons, mais paraît embarrassé et n'arrive pas à prononcer un mot. Alors je l'ai fait asseoir sur une chaise. Elle était cassée, il est vrai, mais j'en ai pas d'autre chez moi. Je lui ai offert du thé. Oh, il s'est excusé d'abord, a refusé, s'est excusé encore, et a fini par prendre le verre que je lui tendais. Il voulut le boire sans sucre. Comme j'insistais pour le sucrer, il recommença à s'excuser, refusa longtemps, contesta la nécessité du sucre. Puis il s'est décidé à en jeter dans son verre un tout petit morceau. Après quoi, il m'a assuré que le thé était extrêmement doux. Voilà quelle humilité la misère peut conduire un homme. Eh bien, mon petit père, que me raconterez-vous? Lui ai-je dit. Voici, fit-il. Et il m'expliqua comme quoi il se trouvait dans le besoin. Makar Alexievitch, mon bienfaiteur de grâce pour l'amour du ciel, venez en aide à une famille dans le malheur. Ma femme, mes enfants n'ont rien à manger. Je n'ai pas la force de le supporter, moi, le père, ajouta-t-il. J'ai voulu lui répondre, mais il ne m'a pas laissé parler. Je crains tout le monde ici, Makar Alexievitch, poursuivit-il. Oh, c'est pas que j'ai peur d'eux, non, mais voyez-vous, je me gêne. Ce sont tous des gens si fiers, si importants. Je craignais aussi de vous importuner, mon petit père et mon bienfaiteur, car je sais que vous avez eu des ennuis vous-même et qu'il ne vous est pas possible de donner beaucoup. Mais prêtez-moi du moins une petite somme. Je me suis risqué à vous le demander, a-t-il ajouté, parce que je connais votre bonté, parce que je sais que vous avez été vous-même dans le besoin, que vous avez des difficultés maintenant encore, et que votre cœur est pour cette raison compatissant à la souffrance d'autrui. Et il conclut en me priant d'excuser son audace et la correction de sa démarche. Je lui répondis que je n'aurais pas demandé mieux que de l'aider, mais qu'il ne me restait plus rien, mais plus rien du tout. Mon petit père, Makar Alexievitch, a-t-il insisté alors, il ne me faut pas beaucoup, si seulement vous consentiez. Il rougit jusqu'aux cheveux à ce moment. Ma femme, mes enfants, ils ont faim. Oh, si vous pouviez m'avancer quelques 10 copecks. Mon cœur s'est serré affreusement. Ils m'ont dépassé, cela en fait de misère, me suis-je dit. Il me restait en tout et pour tout 20 copecks dont j'avais disposé d'avance. Je comptais m'acheter demain avec cet argent certaines choses indispensables. Non, mon cher, je le regrette, mais c'est impossible, voyez-vous, lui ai-je dit à peu près. Mon petit père, Makar Alexeyevitch, donnez n'importe quoi, fit-il alors, avancez-moi ne fût-ce que 10 copecks. Là, je n'ai pas pu résister plus longtemps. Je sortis du tiroir mes 20 copecks et je les lui donnai, ma petite mère, N'ai-je pas eu raison? Oh, cette misère, cette misère! Nous avons causé ensuite. Mais comment avez-vous fait, lui ai-je demandé, mais comment avez-vous fait, mon petit père, pour plonger dans une telle détresse? Et pourquoi, étant si pauvre, avez-vous cru devoir louer une chambre pour 5 roubles d'argent? Il m'a expliqué qu'il s'est installé dans cette pièce 6 mois plus tôt et qu'il a payé à ce moment 3 mois de loyer d'avance. Ensuite, des difficultés ont surgi et sa situation s'est aggravée au point qu'il ne sait plus maintenant, le pauvre, où donner de la tête. Il espérait que son affaire serait réglée d'ici là. Or, c'est une histoire délicate et extrêmement désagréable qu'il s'est attirée. Il est obligé, voyez-vous, Varinka, de comparaître devant le tribunal pour y répondre je ne sais pas bien quoi. Il est en procès avec un marchand qui a volé l'État lors d'une concession. L'escroquerie a été découverte, le marchand a été traduit en justice, et il a entraîné avec lui Gorshkov, l'a compromis dans sa filouterie, alors que le malheureux n'y a participé qu'indirectement. En réalité, Gorshkov n'est fautif que de négligence et d'imprudence, et d'avoir perdu de vue, de façon impardonnable, le véritable intérêt de la caisse publique. C'est une affaire qui traîne depuis des années déjà. Des faits nouveaux surgissent constamment pour accroître les difficultés de Gorshkov. Mais je n'ai pas commis l'acte déshonorant qu'on m'impute, m'affirme-t-il. Je ne suis pas coupable sur ce point. Je ne suis pas fautif. Je n'ai pas commis de vol ni d'abus de confiance. Cette affaire lui a gravement nui. On l'a exclu du service, et bien qu'on n'ait pas pu mettre une faute précise à sa charge, il se voit dans l'impossibilité, avant de s'être complètement réhabilité, d'obtenir de ce marchand le remboursement d'une somme importante que celui-ci lui doit et qu'il conteste devant le tribunal. Moi, oh, je le crois sur parole, mais le tribunal n'est malheureusement pas convaincu. Il faut dire que cette affaire est très compliquée, très retorse, embrouillée à plaisir et qu'il n'y a pas moyen de la démêler. Dès qu'on croit avoir tiré un point au clair, voilà que ce marchand l'embrouille de nouveau au moyen de détours rusés. Oh, je prends part au malheur de Gorshkov, ma chère amie. Je sympathise de tout cœur avec lui. C'est un homme sans travail et il ne peut pas trouver d'emploi parce qu'on n'a plus confiance en lui. Il a dépensé toutes ses économies. Le procès traîne, se complique de jour en jour. Cependant, il faut bien vivre, manger. Par surcroît, sans but ni raison, un nouvel enfant leur est né, ce qui leur a fait des frais. Leur fils est tombé malade, encore des frais. Il est mort, des frais, et des frais toujours. Sa femme est souffrante. Lui-même est atteint d'une vieille maladie qu'il ne soigne pas. Bref, il a souffert l'inimaginable. Il prétend du reste que son affaire s'achemine en ce moment vers une solution heureuse, que ce n'est plus qu'une question de jour, qu'il n'y a plus de doute quant au résultat. Oh, il me fait de la peine, beaucoup de peine. Oh, je le plains tellement, ma petite mère. Je l'ai réconforté, consolé. C'est un homme désemparé, apeuré. Il a besoin de se sentir protégé. Alors je lui ai parlé avec douceur. Voilà, adieu maintenant, ma petite mère. Que le Seigneur soit avec vous et portez-vous bien. Oh, ma tourterelle, quand je pense à vous, c'est comme un baume que je sens sur mon âme endolorie. Et bien que je souffre aussi pour vous, c'est une souffrance qui m'est douce. votre ami sincère, Makar Livyushkin. 9 septembre. Ma petite mère Varvara Alexeyevna, je vous écris dans un état épouvantable. Je suis bouleversé par le terrible événement qui s'est produit. Ma tête tourne, il me semble que tout danse autour de moi. Oh, ma chère amie, comment vais-je vous le raconter? Nous ne l'aurions jamais pensé, jamais pressenti. Non, il est impossible que j'en ai pas eu le pressentiment. Si j'en ai eu d'avance l'intuition obscure, oh, tout cela mon cœur l'avait deviné. Je me soutiens même que j'ai rêvé l'autre jour, et c'était de cela sans doute qu'il s'agissait dans mon rêve. Voilà ce qui est arrivé. Oh, je vais vous le raconter simplement, sans style, avec les mots que le Seigneur me dictera. Je me suis donc rendu au travail ce matin. J'arrive au bureau, je m'assieds à ma place, je me mets à écrire. Il faut que je vous dise, ma petite mère, que j'ai fait de la copie hier aussi. Il est donc arrivé qu'hier que Timothée Ivanovitch s'est approché de ma table et a daigné me donner personnellement l'ordre de recopier une pièce à un document urgent, à ce qu'il m'a dit, et très important. « Recopiez-le, m'a-t-il recommandé, recopiez-le, Makar Alexeyevitch, de votre plus belle écriture. Faites-le très soigneusement et promptement. La pièce doit être soumise aujourd'hui même pour signature. » Il faut que je vous confie ici, mon doux ange, que je n'étais pas en forme hier, que je me sentais de mauvaise humeur au point que j'évitais de regarder autour de moi. Une tristesse si profonde, une mélancolie si sombre m'était venue. J'avais froid au cœur et il faisait nuit dans mon âme. Votre pensée ne me quittait pas, ma pauvre petite hirondelle. Bref, je me suis mis à copier. J'ai transcrit la pièce d'une façon très propre, impeccable. Mais comment vous l'expliquer, je me le demande. Est-ce le diable qui m'a poussé? Les forces mystérieuses de la destinée sont-elles intervenues? Ou était-ce simplement fatal, inévitable? Le fait est que j'ai omis dans ma copie une ligne entière. Cela a donné un sens, c'est-à-dire que la phrase n'avait pas de sens du tout. On n'a pas eu le temps de faire signer le document hier, et c'est aujourd'hui seulement qu'on l'a soumis à son Excellence. Moi, je me suis rendu à mon bureau ce matin, comme d'habitude, sans me douter de rien. Et je me suis installé à côté d'Emilien Ivanovitch. Je dois vous dire, ma chère amie, que je suis devenu depuis un certain temps beaucoup plus timide qu'à l'ordinaire, et que je me sens constamment gêné, confus et craintif. Ces derniers temps, j'évitais même de regarder mes collègues et je fuyais leurs regards. Il suffisait que la chaise d'un voisin se mit à grincer pour que je me sente aussitôt plus mort que vif de terreur. C'est dans cet état d'âme que je me trouvais aujourd'hui également, collé à mon siège et baissant la tête, roulé en hérisson, si bien que Tim Akimovitch, oh, c'est un terrible chicaneur, il n'en existe pas de pareil au monde, me dit soudain à voix haute, de façon à ce que tous puissent l'entendre, « Qu'avez-vous donc ce matin, Makar Alexeyevitch? Vous faites une drôle de tête !» Et il esquissa avec cela une telle grimace que tous ceux qui étaient là, à côté de lui ou de moi, éclatèrent de rire, naturellement, à mes dépens. Oh, oh, il ne se gênait pas. Il se tordait, littéralement. Moi, je me suis fait tout petit. Mes oreilles se sont serrées contre ma tête et j'ai fermé les yeux. Je demeurais comme cela, à ma place, sans remuer. C'est mon habitude en pareil cas. Il ne tarde pas alors à me laisser tranquille. Tout à coup, j'entendis du bruit, des pas précipités dans le corridor, un va-et-vient. J'entends, est-ce bien vrai? Mes oreilles ne sont-elles pas le jouet d'une illusion? Oui, c'est cela, on m'appelle. J'entends crier mon nom, on appelle Yevushkin. Le cœur s'est mis à trembler dans ma poitrine et j'ai été saisi d'une frayeur inexplicable. Je ne sais de quoi j'ai eu peur en cet instant, mais je puis dire que jamais encore je n'avais éprouvé une pareille terreur de ma vie. Je me suis collé plus fortement à ma chaise, comme si je n'avais rien entendu, faisant semblant en quelque sorte de ne pas être là. Mais voilà que la rumeur grandit et se rapproche. Déjà elle résonne au-dessus de mes oreilles. « Dievushkin !» crie une voix. « Dievushkin ! Où donc est Dievushkin ?» Je lève les yeux. Eustache Ivanovitch était devant moi. Il me dit « Makar Alexeyevitch, on vous demande dans le bureau de son Excellence, dépêchez-vous. Vous avez fait un malheur avec ce document. » Ce furent ses seules paroles, mais cela suffisait, n'est-il pas vrai, ma petite mère? C'était bien assez, ne le pensez-vous pas? Je me sentais foudroyé, glacé d'épouvante, comme privé de sens. Je me mis en route, marchant machinalement, plus mort que vif. On m'a fait traverser une pièce, puis une seconde, et une troisième pièce, et on m'a conduit ainsi dans le cabinet de son Excellence. Je me suis soudain trouvé là, planté devant lui. Vous décrire exactement quelles furent mes pensées en cet instant serait impossible, je ne m'en souviens plus. J'ai vu, devant moi, son Excellence, et ils se tenaient tous autour d'elle. Oh, je crois que j'ai même oublié de saluer, tant ma confusion fut grande. J'étais stupide, mes lèvres tremblaient, mes jambes tremblaient. Il y avait d'ailleurs de quoi, ma petite mère. Tout d'abord, j'avais honte. Mon regard venait de tomber par hasard sur un miroir placé à droite, et ce que j'y ai vu aurait pu me rendre fou tout bonnement. En second lieu, j'avais toujours fait mon possible pour passer inaperçu, faisant semblant de ne pas exister en ce monde, en sorte que son Excellence ne s'était sans doute pas avisée de ma présence dans ses services. Peut-être avait-elle entendu mentionner en passant le nom d'un certain fonctionnaire Dievushkin, mais sans entrer dans les détails et sans s'occuper de moi en rien. Elle a commencé d'une voix très courroucée. « Comment avez-vous pu, monsieur? Où donc aviez-vous vos yeux? C'est un document important dont j'avais besoin d'urgence, et vous l'avez abîmé. Mais à quoi songez-vous, voyons ?» Ici, son Excellence s'est tourné vers Eustache Ivanovitch. Je perçois à travers un brouillard des mots détachés qui frappent mes oreilles. Négligence, inattention. Vous nous amenez des ennuis. J'ouvris la bouche, j'ignore pourquoi. Je voulus demander pardon, je n'y suis pas parvenu. Fuir, je n'osais pas l'essayer. Et alors, ma petite mère, alors, il est arrivé une chose si atroce que la plume en cet instant même m'en tombe des mains de honte. Mon bouton, ce bouton, oh, que le diable l'emporte, ce bouton qui ne pendait qu'à un fil, s'est détaché soudain, oh, j'ai dû le heurter par inadvertance, a sauté, a bondi, a tournoyé, a roulé sur le plancher avec un bruit de clochette et s'est arrêté juste devant les pieds de son Excellence. Et cela, au milieu du silence général. Ce fut là toute mon explication, la seule excuse la seule réponse que j'ai trouvé le moyen de donner. Oh, je n'osais plus rien dire ensuite. Les conséquences en furent terribles. Son Excellence s'est immédiatement avisé de mon allure et a remarqué ma tenue. Je me souvins en cet instant de ce que j'avais vu dans le miroir. Comme si j'avais perdu la raison, je me précipitais pour ramasser le bouton. Je crois que je ne savais plus ce que je faisais. Je me suis penché, j'ai voulu saisir le bouton. Il m'échappe des mains, roule et tournoie de nouveau, et je n'arrive pas à le rattraper. Bref, j'ai brillé le surcroît par ma maladresse. À ce moment, j'ai senti que mes dernières forces m'abandonnaient, que tout était perdu désormais, perdu sans retour. Ma réputation, ma dignité, tout était fini, brisé. L'homme m'avait sombré tout entier. À mes oreilles, des phrases bizarres tintaient, bourdonnaient. Je croyais entendre la voix de Thérèse, celle de Faldoni. Finalement, je parvins à ramasser le bouton, je me suis relevé et redressé. Et si du moins, imbécile que je suis, je m'étais tenu tranquille ensuite, les mains sur les coutures de mon pantalon. Mais non ! Il a fallu encore que je me mette à rattacher le bouton au fil cassé, comme s'il pouvait tenir ainsi. Et je souriais avec cela, je souriais. Son Excellence s'est détourné d'abord de moi, puis m'a regardé de nouveau, et je l'entendis dire à Eustache Ivanovitch « Comment se peut-il, mais voyez donc l'air qu'il a. Que lui est-il arrivé? Pourquoi est-il ainsi? Oh, ma petite mère, que devenir dans une situation pareille? Que lui est-il arrivé? Pourquoi est-il ainsi? Ah, je me suis distingué, je puis le dire. J'entendis Eustache Ivanovitch qui parlait de moi. Oh, il n'a jamais donné lieu à aucune plainte, sa conduite est exemplaire, il touche un traitement suffisant, conforme au statut. Oh, ce cas, ne pourriez-vous pas, pour l'aider un peu, lui accorder une avance? Dit son Excellence. C'est qu'il a déjà touché son traitement d'avance, et pour plusieurs mois. Il l'a touché jusqu'à telle date. Sans doute a-t-il eu des difficultés personnelles, mais sa conduite a été bonne, il ne s'est jamais fait remarquer en rien, n'a pas encouru de reproches. Oh, j'avais chaud, mon doux ange. Les flammes de l'enfer me léchaient le visage. Oh, je pensais que j'allais mourir sur place. Soit, reprit son Excellence à voix haute, qu'on établisse une nouvelle copie de cette pièce, mais vite. Diavoshkin, venez par ici, vous recopierez ce papier, mais sans faute cette fois. À propos, son Excellence se tourna à ce moment vers les autres personnes présentes et leur donna diverses instructions. Elles se dispersèrent. À peine était-elle partie que son Excellence tira hâtivement son portefeuille, en sortit un billet de 100 roubles. « Voici, dit-il, je vous donne ce que je peux. Prenez-le sans façon, vous pourrez me le rendre plus tard. » Et il me mit le billet dans la main. Oh, j'ai tressailli, mon ange, et mon âme a été comme secouée. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je voulus prendre sa main pour la baiser. Oh, lui, il a rougi, alors jusqu'aux cheveux. Je vous jure que je n'exagère pas, que je vous dis maintenant l'exacte vérité, ma petite mère. Il a saisi ma main indigne, et il l'a secouée en la serrant. Il l'a secoué comme cela, je vous le dis, comme si j'étais son égal, comme si j'étais un général, moi aussi. « Allez, me dit-il ensuite, j'ai fait ce que j'ai pu. Ne commettez plus d'erreur à l'avenir, et pour cette fois, à tout péché miséricorde. » Mais maintenant, ma petite mère, voici ce que j'ai décidé. Je vous demande, à vous et à Fedora, comme je le demanderais, comme je l'exigerais de mes enfants si j'en avais, de prier Dieu pour son excellence. C'est-à-dire que ce serait de la façon suivante. Ils ne prieraient pas pour leur père, mais ils diraient tous les jours et durant toute l'éternité une prière pour son excellence. Il y a une chose encore que je désire exprimer, ma petite mère, et je l'affirme ici solennellement. Écoutez-moi bien, ma petite mère. Je jure ici que si grande qu'ait été ma souffrance dans les sombres jours de notre misère, si profonde qu'ait été l'affliction de mon cœur lorsque je pensais à vous, que je voyais vos malheurs ou que je prenais conscience de ma propre situation, de mon humiliation et de mon incapacité, je vous jure, en dépit de tout cela, que ce ne sont pas tant ces 100 roubles qui me réjouissent, mais le fait que son excellence a daigné serrer ma main indigne, ma main à moi, brin d'herbe que je suis, ivrogne que je suis. Il m'a rendu par là le respect de moi-même. Il a ressuscité mon âme par ce geste, a rendu ma vie plus douce pour l'éternité. Je suis fermement convaincu, si grand pécheur que je sois aux yeux du Très-Puissant, que ma prière pour le bonheur et le succès de son excellence montera jusqu'au trône du Seigneur. Ma petite mère, je me trouve en ce moment dans un terrible bouleversement moral. Je me sens tout remué en dedans. Mon cœur bat comme s'il voulait s'élancer hors de ma poitrine. Avec cela, il me vient une sorte de faiblesse dans tout le corps. Je vous envoie 45 roubles en assignat. Je remettrai 20 roubles à ma logeuse et j'en garderai 35 pour moi-même. Pour 20 roubles, je ferai réparer mes vêtements. Il me restera 15 roubles encore pour les dépenses courantes. Mais toutes ces impressions qui se sont accumulées durant la matinée m'ont ébranlé de fond en comble, m'ont secoué par les racines de mon être. Je vais me coucher pour me reposer un peu. Je suis tranquille d'ailleurs, très calme. Il y a seulement mon âme qui semble se briser d'émotion, et je la sens là, tout au fond de mon être, qui tremble, qui tressaille, qui remue. Je voudrais vous voir. Pour l'instant, je me sens désorienté, un peu comme si j'étais ivre à la suite de toutes ces émotions. Le Seigneur voit tout, ma petite mère. Dieu voit tout, ma tourterelle adorable. Votre digne ami, Makar Deviouchkin. Septembre. Mon très cher Makar Alexeyevitch, je me réjouis infiniment de votre bonheur et je sais apprécier comme il convient les qualités morales de votre chef, mon ami. Ainsi, vous pourrez connaître un peu d'apaisement maintenant, après tant de souffrances. Mais je vous en supplie, au nom du ciel, ne recommencez pas à dépenser de l'argent à tort et à travers. Vivez tranquillement, aussi modestement que possible, et décidez, à partir de ce jour, de mettre de côté tout ce que vous pourrez épargner afin de ne pas être pris au dépourvu une autre fois par des difficultés inattendues. Pour ce qui est de nous, ne vous inquiétez pas à notre sujet. Je vous en prie. Fedora et moi, nous saurons nous tirer d'affaire d'une manière ou d'une autre. Il ne fallait pas nous envoyer une somme si forte, Makar Alexeyevitch. Nous n'en avons aucunement besoin. Nous sommes contents de ce que nous avons, nous ne demandons pas davantage. Il est vrai qu'il nous faudra de l'argent prochainement pour quitter cet appartement, mais Fedora espère toucher bientôt un montant qu'on lui doit depuis très longtemps. Néanmoins, je garderai 20 roubles pour moi en prévision de besoins urgents. Quant au reste, je vous le retourne. Ménagez vos ressources, Makar Alexeyevitch, croyez-moi. Adieu maintenant. Vous pouvez jouir désormais d'une vie calme. Portez-vous bien et soyez gai. Je vous aurais écrit plus longuement, mais je me sens affreusement lasse. Hier, j'ai dû garder le lit toute la journée. Je vous remercie de m'avoir promis une visite. Venez me voir, Makar Alexeyevitch. Vous me ferez plaisir. V.D.